France Inter.
Bonjour à tous, au sommaire du 13-14 aujourd'hui. Jusqu'où faire des économies, jusqu'à vacciner les personnes âgées sans leur demander leur avis. Au moment où le projet de budget de la Sécu arrive en commission, on se penche sur l'une des mesures qui fait débat, la vaccination obligatoire dans les EHPAD. Dans les maisons de retraite, on n'est pas d'accord. Pas de consensus non plus sur la taxe Zuckman. Là, c'est dans le projet de budget général de l'État. Les socialistes en proposent une version allégée. Mais qui sera concerné? Combien cela peut rapporter? Et les oppositions seront-elles convaincues par les infléchissements? On posera la question à nos spécialistes. Savez-vous ce qu'est une bombe carbone pour les défenseurs du climat? Ces projets pétroliers ou miniers sont des catastrophes annoncées. Célia Kiré, une carte en recense toujours plus aujourd'hui.
Oui, près de 30 méga-projets pétroliers ou gaziers, des bombes carbone ont démarré depuis 2021. Les ONG ont recensé près de 200 nouveaux projets de ce type. Tous les continents sont concernés.
Direction également la gare à Lyon, où des vols de câbles ont mis une nouvelle fois une sacrée pagaille.
Ils nous annoncent d'abord un train qui redémarre à 14h. Après, ils nous disent non, ça ne sera pas réparé. Peut-être 18h, mais ce n'est pas sûr. Débrouillez-vous par vos propres moyens. Voilà ce qu'ils nous ont dit.
Les agriculteurs face à une nouvelle alerte après la dermatose nodulaire. La grippe aviaire s'est déclarée dans plusieurs départements français et l'on craint le pire car nos voisins allemands sont en pleine épidémie avec des dizaines de milliers de volailles à abattre. Les agriculteurs, justement, on en parle dans notre deuxième partie à 13h30. On dessine le portrait robot des nouveaux paysans. À l'heure où beaucoup partent à la retraite, qui prend la relève? Une étude sociologique Agrinovo esquisse aujourd'hui ces nouveaux profils des héritiers aux reconvertis. On en parlera avec l'un des auteurs de l'étude et un reconverti ancien de chez McKinsey. Appelez-nous au 01 45 24 7000 si vous aussi, vous voulez nous raconter. Et puis dans une semaine en France, on part à Dijon au festival Banana Pshit quand le street art envahit les murs de la ville.
Une grande dominante de rouge, ça symbolise un peu les révoltes sociales pour moi. C'est assez vibrant et énergique. Et le côté noir et blanc, après, pour ce qui concerne les personnages, ça met en valeur un peu la ligne. Je suis un amoureux de la bande dessinée.
Et Frédéric Pommier pour C'est une chanson, une mezzo-soprano choisie aujourd'hui, Pauline Croze. Voilà, vous avez le menu à table. La vaccination obligatoire, cela rappelle des débats d'une autre époque au temps de l'épidémie de Covid. Débat remis à la une aujourd'hui dans le projet de budget de la Sécurité sociale. Discuté en commission à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans le texte on y trouve un projet de vaccination obligatoire contre la grippe pour tous les résidents d'EHPAD. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Le but est de protéger les personnes âgées et fragiles et de faire des économies à la Sécu, mais pour certains l'obligation ne passe pas.
Oui, plusieurs fédérations du secteur sont opposées à une telle mesure jugée coercitive. Pour Pierre Roux, président de l'ADEPA, l'association au service des personnes âgées qui regroupe environ 2000 directeurs d'EHPAD, l'obligation vaccinale est contraire à la liberté individuelle des résidents. Ce serait même discriminatoire.
Ça ouvre une discrimination évidente. Nous rappelons que les établissements d'accueil pour personnes âgées sont des lieux de vie et que chacun doit préserver ses mêmes droits de citoyen que tout citoyen qui vit dans son propre domicile. Chacun doit garder son libre arbitre et sa liberté. Et puis, que ferions-nous en cas de refus d'un résident d'être vacciné? Est-ce qu'il faut le vacciner de force? Est-ce qu'il faut l'exclure de l'établissement?
Pour les acteurs du secteur, il est essentiel de recueillir l'assentiment des résidents en EHPAD. L'an dernier, 83% d'entre eux étaient vaccinés contre la grippe saisonnière. C'est beaucoup plus que les soignants, vaccinés à hauteur de 20%. À ce titre, le projet de budget de la Sécurité sociale prévoit également de rendre le vaccin contre la grippe obligatoire aux professionnels de santé exerçant en libéral. Si elles sont adoptées par le Parlement, ces obligations vaccinales n'entreraient en vigueur qu'après un avis de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations de cette instance indépendante sont attendues début 2026.
Merci Alice Cachaner. Le projet de budget de la Sécu examiné en commission, projet explosif puisqu'il contient la suspension de la réforme des retraites obtenue par les socialistes sous peine de censure pour le gouvernement. Explosif aussi, tant les économies à faire risquent de faire mal aux malades, notamment avec une nouvelle hausse des franchises, c'est-à-dire le reste à charge des patients sur les consultations et les médicaments, puis également des arrêts maladie plus courts. Et pendant que le budget de la Sécu passe en commission, les débats sur le budget général de l'État se poursuivent dans l'hémicycle. Deuxième semaine à haut risque pour le gouvernement Le Cornu, toujours sous l'épée de Damoclès classe des socialistes. Après la suspension de la réforme des retraites, ils réclament désormais de taxer les plus riches. Et si la taxe Zuckman semble mise de côté, c'était 2% du patrimoine des 1800 foyers les plus fortunés de France, ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, une taxe Zuckman allégée et proposée par les socialistes. Alexis Morel, Jérôme Val, bonjour.
Bonjour.
D'un point de vue économique, d'abord, Alexis, en quoi consiste cette nouvelle version ? Qui la paierait, qui y échapperait ?
Alors, dans cette version bis, les socialistes proposent un impôt minimum de 3% des 10 millions d'euros de patrimoine. Alors, à première vue, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment d'allègement. Mais cette nouvelle copie comprend des exonérations. Certains biens ne seraient pas taxés. En l'occurrence, le patrimoine détenu par des entreprises familiales, donc des sociétés possédées par les membres d'une même famille. Ça, ce serait la première exception. La deuxième, ce sont des entreprises innovantes. Là, on pense essentiellement aux start-up. C'est un statut qui existe déjà dans la loi. Il faut que l'entreprise ait été créée il y a moins de 8 ans et qu'elle investisse dans la recherche et le développement.
Et c'est la raison pour laquelle ça rapporterait moins. Selon les socialistes, on serait entre 7 et 8 milliards d'euros de gains. C'est ça, deux fois moins que la taxe Zucman, en fait.
Oui, ça l'explique en partie. Les entreprises familiales représentent plus de 6 entreprises sur 10 en France. Donc, potentiellement, l'exonération concerne beaucoup de monde. Mais ce n'est pas si simple. La nouvelle proposition socialiste impose en effet des critères très restrictifs. Pour échapper à la taxe, il faut que le dirigeant de l'entreprise détienne à lui seul plus de la moitié de sa société. Et ça, ce n'est pas le cas des gros groupes où la plupart du temps, c'est la famille entière qui possède la majorité des parts, pas le patron tout seul. Donc un milliardaire comme Bernard Arnault devrait bien payer cette taxe, quoi qu'il arrive. Et ça, ça fait dire aux socialistes qu'en fait, ces exonérations, elles concerneraient seulement des petites entreprises familiales.
Merci Alexis Morel. Côté politique, Jérôme Val, la taxe Zucman remodelée, on l'entend, avec ses exonérations, a-t-elle plus de chances d'être adoptée ?
Eh bien, de l'aveu même d'un député socialiste en pointe sur le sujet, la recherche d'alliés sur cette proposition s'annonce très compliquée. Une réunion s'est déroulée vendredi dernier, entre autres avec le PS et Gabriel Attal, le parti macroniste. Pas vraiment enthousiaste sur cette solution. Une visio d'ailleurs entre députés a été annulée hier soir. On ne sait pas ce que c'est, tranche une proche du patron de Renaissance. Alors, pour avoir une toute petite chance d'aboutir, la proposition doit ratisser très large. Pas une voix ne doit manquer chez les écologistes, les communistes, dans le bloc central, y compris chez Horizon, tout en essayant d'arracher le soutien du gouvernement. On fait le pari de l'intelligence, a encore assisté ce matin Boris Vallot, le chef de file des députés PS, tout en remettant sur la table la menace d'une censure.
Mais les oppositions à droite comme à gauche, Jérôme, n'ont pas l'air de vouloir bouger.
LFI, le message est clair, encore martelé ce matin par le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard. Pas question de soutenir une sous-taxe comme elle a été qualifiée par les Insoumis. Seule voie possible pour eux, une véritable taxe Zucman. Le Rassemblement National fustige de son côté le côté trop flou de la proposition entreprise familiale ou innovante. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, explique un cadre du RN, qui renvoie sa propre solution, l'impôt sur la fortune financière. À droite, la position reste inchangée, pas de taxes supplémentaires. Vous l'aurez compris, le trou de souris pour une taxation des très hauts revenus semble se rétrécir jour après jour.
Jérôme Val, merci pour ces précisions. Les agriculteurs, déjà affaiblis par l'épidémie de dermatose nodulaire contagieux chez les bovins, désormais ce sont les producteurs de volailles qui tremblent. Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans le Cher à l'ouest de Bourges. 800 volailles ont été abattues. Ce n'est pas le premier. D'autres foyers ont été identifiés ces derniers jours dans le Lot-et-Garonne, en Seine-Maritime, dans le Pas-de-Calais et en Loire-Atlantique. Le niveau d'alerte a été relevé en France, mais on n'est pas encore au niveau de l'Allemagne où les autorités près de Berlin viennent d'ordonner l'abattage de 130 000 canards et poulets. L'épidémie de grippe aviaire prend de l'autre côté du Rhin une ampleur inquiétante, Nathalie Versieux.
150 000 poules pondeuses abattues dans le Mecklembourg, 80 000 canards et 50 000 poulets dans les environs de Berlin. Les dommages sont énormes pour les éleveurs, plusieurs millions d'euros déjà, alors que l'épidémie de H5N1 n'en est qu'à ses débuts. La saison des migrations ne fait que commencer pour les oiseaux migrateurs qui survolent quotidiennement le pays en provenance des pays baltes et de Scandinavie. Nombre d'entre eux sont infectés, les grues notamment, qui tombent littéralement du ciel ou meurent par milliers dans les marécages où elles ont l'habitude de se reposer sur la route vers le sud. Déjà 1000 grues mortes ont été ramassées à Linum, à proximité de Berlin, un important site de repos pour ces oiseaux en partance vers le sud. 7000 y séjournent en ce moment même, tous menacés. À Berlin, Nathalie Versieux, France Inter.
À l'étranger, encore un Américain au Japon. Donald Trump poursuit sa tournée en Asie après avoir signé un certain nombre d'accords commerciaux avec le Cambodge ou Kuala Lumpur. Et avant le point d'orgue, la rencontre avec le chinois Xi Jinping jeudi. Là aussi pour enterrer la hache de guerre commerciale. Étape au Japon, relativement épargnée là, par les surtaxes douanières. On vous retrouve en direct de Tokyo. Karine Ishimura, bonjour.
Bonjour.
Donald Trump a rencontré l'empereur Naruhito. Il va poursuivre avec la nouvelle première ministre, Sanae Takaishi. Quels sont les enjeux justement pour la chef du gouvernement qui fait ici ses débuts diplomatiques ?
Oui, c'est en effet le plongeon direct dans le grand bain diplomatique pour la première ministre Takaichi. Alors l'important pour elle est de nouer d'entrée de jeu une relation de confiance avec le président Trump. Elle dispose pour cela d'un atout puisqu'elle est l'héritière de la pensée et de la politique de l'ex-premier ministre Shinzo Abe qui était très apprécié de Donald Trump durant son premier mandat.
Et comment va-t-elle s'y prendre pour amadouer Donald Trump, Karine ?
Eh bien, elle va insister sur l'importance de l'alliance nippo-américaine face à la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Pour plaire à Donald Trump, elle promet une accélération de la hausse du budget militaire japonais qui devrait atteindre 2% du PIB dès cette année et plus encore ensuite, avec un rôle accru du Japon dans la zone Indo-Pacifique. Lors de sa déclaration de politique générale, Sanae Takaichi a employé l'expression « rétablir la diplomatie japonaise » car elle considère que le Japon a faibli sur la scène internationale depuis le décès de Shinzo Abe. Trump attend aussi du Japon des investissements massifs aux États-Unis et une vaste coopération technique. Elle ne pourra pas dire non.
Karine Nishimura en direct de Tokyo, merci à vous. Donald Trump aimait aussi l'idée de prolonger sa tournée asiatique pour rencontrer l'un des dictateurs les plus honnis de la planète, le Nord-Coréen Kim Jong-un. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la campagne municipale bat son plein à New York. Le scrutin prévu le 4 novembre, la semaine prochaine, a déjà son favori, le démocrate Zohran Mamdani. Encore inconnu il y a quelques mois, il fait la course en tête dans les sondages. À 34 ans, ce socialiste revendiqué compte déjà parmi les grandes voix de la gauche américaine. Loïc Loury a suivi son meeting hier à New York.
Il y avait eu jusque-là le vétéran de la gauche américaine Bernie Sanders, son héritière Alexandria Ocasio-Cortez. Il faudra désormais compter sur le petit dernier Zohran Mamdani. Un casting 5 étoiles pour ce meeting devant près de 15 000 personnes dans le Queens.
Yeah, a refreshing change.
Le changement est rafraîchissant, s'enthousiasme ce supporter.
He's young, he's bold,
il est jeune, audacieux, positif. C'est tellement excitant de voir tous ces New-Yorkais différents se regrouper autour de ce programme qui est simple et tourné vers les travailleurs new-yorkais. Un programme facile à résumer, des logements abordables, des crèches et des bus gratuits et une opposition frontale si besoin à Donald Trump. Car s'il s'agit bien d'une élection locale, Zohran Mamdani, jeune socialiste et musulman, est déjà dans le viseur de Donald Trump. New York, Loïc Loury, France Inter.
Pas de surprise, au Cameroun, le président Paul Biya est réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Le Conseil constitutionnel camerounais valide son score. Nathanaël Charbonnier, Paul Biya a recueilli 53,66% des suffrages, c'est ça ?
Oui, et vous savez, ce n'est pas tant le résultat qui importe, car il était presque connu d'avance. Il était évident que Paul Biya, âgé de 92 ans au pouvoir depuis 1982, serait réélu pour un huitième mandat consécutif tous les années. Analyste le prédisait. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est maintenant la réaction de son adversaire ainsi que celle de la rue. Son adversaire, tout d'abord, Issa Tchiroma, 79 ans, avait pris les devants deux jours après le vote des Camerounais. Il avait pris la parole pour revendiquer cette victoire. Selon son propre décompte, il aurait même remporté l'élection présidentielle avec près de 55% des voix. L'autre réaction que l'on attend, eh bien, c'est celle de la rue qui s'est déjà fait entendre avec des manifestations, notamment dans le nord du pays, qui ont entraîné des échanges vifs avec les forces de l'ordre. On compte pas moins de 4 morts. Il faut préciser que le pouvoir en place avait interdit tout rassemblement. C'est donc cette rue qui va être observée dans les heures et jours à venir. Il faut dire qu'à chaque élection présidentielle, il y a contestation, mais à chaque fois, Paul Biya, l'un des plus vieux leaders africains en exercice, arrive à reprendre la main. Aura-t-il cette fois les ressources nécessaires pour le faire ? La question est posée et la réponse pourrait intervenir très rapidement.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale. Merci à vous. Les bombes carbone, on va en reparler au Brésil où se tient la COP, la conférence des Nations Unies pour le climat, le mois prochain. Les bombes carbone, des projets d'énergie fossile capables de générer plus d'un milliard de tonnes de CO2 sur l'ensemble de leur durée de vie. Concept théorisé ces dernières années par un chercheur qui, avec son ONG, Lingo, publie une carte de ces bombes climatiques. Célia Kiré, le constat n'a rien d'encourageant. On continue d'enregistrer de nouveaux projets pétroliers, gaziers et miniers.
Oui, près de 180 bombes carbone supplémentaires ont été recensées par les ONG depuis 2021, alors même que l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut arrêter de forer de nouveaux puits. Si on regarde cette nouvelle carte, on en voit partout, sur tous les continents. Quasiment la moitié de ces projets sont en Chine à cause du charbon, mais il y a aussi des projets pétroliers au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, du gaz en Afrique, aux États-Unis. Parmi les exemples notés par les ONG, un projet pétrolier au Brésil détenu par Petrobras, Shell et Total Energy. Alors que Lula, vous le disiez, va accueillir la COP30 à Belém, un énorme projet gazier aux Émirats Arabes Unis, un nouveau projet de gaz de schiste aux États-Unis et parmi ces bombes climatiques, 28 projets sont déjà entrés en exploitation. On ne peut plus revenir en arrière. Les ONG accusent les entreprises du secteur, la major chinoise en tête. Total Energy, numéro 2 sur le podium, notamment à cause de son projet de forage de pétrole en Ouganda ou de gaz au Mozambique. Et les banques, elles ont débloqué 1600 milliards de dollars depuis 4 ans pour financer ces projets. Les ONG appellent les États à arrêter les frais, car si l'ensemble de ces projets sont exploités jusqu'au bout, ils émettront 11 fois trop de carbone par rapport aux engagements pris lors de l'accord de Paris. C'était il y a 10 ans.
Célia Kiré pour l'environnement à France Inter.
France Inter, le 13-14, Amélie Perrier.
En France, une centaine de TGV sont perturbés aujourd'hui sur la ligne sud-est. Décompte fait par le ministère des Transports, la ligne à grande vitesse a été une nouvelle fois vandalisée au sud de Valence. Cette fois, conséquence de nombreuses annulations. Le retour à la normale n'est attendu que demain, mardi. À Lyon, Magali Homo, les voyageurs sont prêts à remonter contre les voleurs de câbles ferroviaires.
Sur le tableau à l'entrée de la gare, certains trains affichent plus de 5 heures de retard. D'autres, et ils sont nombreux, sont carrément supprimés.
Enfin, c'est pas la première fois, mais alors là, c'est vraiment la grosse galère.
Ghislaine, 72 ans, devait se rendre à Montpellier. Elle se retrouve sans solution.
Bah oui, je suis un peu énervée parce que d'abord, moi, je suis stressée de nature. Et puis, on ne nous propose rien. On nous a dit de nous débrouiller par nos propres moyens. Ils nous annoncent d'abord un train qui redémarre à 14h. Après, ils nous disent non, ça ne sera pas réparé. Peut-être 18h, mais ce n'est pas sûr. Alors, débrouillez-vous par vos propres moyens. Voilà ce qu'ils nous ont dit.
C'est donc ce qu'elle va faire. Elle a trouvé un covoiturage de dernière minute. Fabienne attend, elle, devant la gare avec sa grosse valise. Elle a un avion à prendre pour la Thaïlande. À 16h, elle doit partir de Paris.
On essaye de ne pas être stressée parce qu'on est quand même en vacances. Donc, on va peut-être bien y arriver un jour ou l'autre, même si on a 24 heures de retard.
Elle doit donc monter dans un train déjà complet pour espérer arriver à temps. Dominique patiente tranquillement. Elle a 2 heures de retard, ça ne fait rien. Elle pense aux autres. Elle appelle à mettre plus de moyens dans les trains.
Je pense à tous ces jeunes, des centaines de personnes. Ils vont être sur les nerfs ce soir. Il faut mettre des moyens au niveau de l'encadrement et de la sécurité des rails.
La SNCF ne prévoit pas de retour à la normale avant demain.
Le reportage de Magali Homo. Quant à la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, elle n'existe pas encore. La consultation publique s'est ouverte ce matin par voie électronique, nous informent nos confrères d'ici Occitanie. Pendant un mois, le grand public, les habitants de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et de la Gironde, peuvent consulter le dossier du projet et déposer leurs observations. 79 communes sont traversées par le futur tracé de la LGV. Elle doit permettre de relier en 2032 Toulouse à Paris en 3h10. Avant les grands froids de l'hiver, et parce qu'il fait plus frais en ce moment le matin, c'est le moment de faire ses stocks de bois de chauffage. Les entreprises ne chôment pas, comme vous l'avez constaté, Philippine Thibaudot, dans le Bas-Rhin à Truchtersheim.
3 stères de bois déversées dans le camion benne de location de Quentin. Il est venu chercher le stock pour sa belle-mère qui vit à Strasbourg.
C'est économique pour nous et que ça chauffe bien la maison dans laquelle ma belle-mère vit du coup.
Merci beaucoup. Mais
de rien monsieur, au revoir.
Quentin, comme d'autres, se réapprovisionne en bûches au premier frisson de l'hiver, mais c'est déjà trop tard pour Gérard Vogel, fondateur de la société, qui vient donner un petit coup de main de temps en temps à ses enfants.
Il devrait se prendre en été, plus ou moins, mais ils viennent toujours quand l'hiver est devant la porte. On peut répondre, mais les délais de livraison sont un peu plus longs. Voilà, un mois et demi, deux mois, ça dépend.
Et camions entrent et repartent de l'entrepôt chargé à ras-bord. Ils livrent 15 à 20 clients par jour. La demande est plus forte cette année, plus 10% par rapport à l'an passé.
Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est parce que l'électricité a monté en prix, le gaz a monté?
Depuis 3 ans, l'entreprise arrive à maintenir le prix du bois, 115 euros le ster. Audrey, la fille de Gérard, à la tête de la boîte avec son frère.
On se fournit exclusivement, principalement dans les forêts de la région. Le coût de transport n'est pas anodin de nos jours et effectivement, on essaye de se fournir le plus proche possible, que ce soit pour le bois de chauffage ou les pellets.
Autrement appelé granulé, le pellet connaît aussi un certain succès. L'entreprise d'Audrey en vend aujourd'hui autant que le bois de chauffage.
Philippine Thibaudeau. Direction maintenant le Masters 1000 de Paris. Le tableau final a débuté ce matin dans le nouvel écrin de la compétition. Fini Bercy et bienvenue à Paris, la Défense Arena. Fabrice Abgral, notre spécialiste, on vous y retrouve. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Pour une compétition.
Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit. Hein.
Je vous en prie, Fabrice. Oui, ça a l'air assez... ça a une bonne ambiance, une compétition.
Ah bah, donc... C'est pour la victoire d'Arthur Cazot, c'est pour ça.
Racontez-nous.
Eh bien, c'est fait à l'instant même. Arthur Cazot vient de se qualifier donc pour le deuxième tour. Il a dominé l'Italien Darderi en 2-7, 7-6, 7-6.
Et cette compétition, donc, c'est aujourd'hui à Paris, la Défense Arena. On est un petit peu plus à l'aise, c'est ça, moins à l'étroit?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est immense, c'est gigantesque, hein, ici à la Défense Arena. Alors, il faut savoir que la Défense Arena est coupée en deux, hein, en deux par un rideau occultant. D'un côté, le central, là où je me trouve, d'une capacité de 17 500 places. Jamais un tournoi indoor n'a rassemblé autant de monde en tribune. 17 500 spectateurs, c'est tout simplement 3 500 de plus qu'à Bercy. Et puis de l'autre côté du rideau, il y a quatre cours. Un seul destiné à l'entraînement, situé dans une zone tampon entre le central et les 3 autres cours de compétition, installés eux l'un à côté de l'autre. Mais entre le cours numéro 1 et les cours numéro 2 et 3, eh bien là encore, il y a un dernier rideau occultant, ce qui permet au cours numéro 1 de prendre enfin toute sa dimension. Il peut accueillir 4000 spectateurs, là où le cours numéro 1 de Bercy ne pouvait en recevoir que 6 ans. Alors pourquoi le Masters 1000 de Paris a déménagé? Bien tout simplement parce que c'était l'avenir du tournoi qui était en jeu. Hein. Bercy a accueilli l'épreuve dès sa première édition en 1986, mais 39 ans après, l'Accor Arena ne répondait plus aux normes fixées et imposées par l'ATP. Le cahier des charges est de plus en plus exigeant et tellement strict d'ailleurs qu'il a même été envisagé que Paris perde son statut de Masters 1000, voire que le tournoi disparaisse du calendrier. La solution, c'était de déménager. Et le déménagement s'est effectué donc à la Défense Arena. C'est plus grand, c'est plus moderne, il y a plus de modularité, le flux des spectateurs est plus important, l'accueil des joueurs aussi est extrêmement important et les joueurs d'ailleurs sont ravis d'avoir déménagé, sachez-le.
Oui, ça sonne pas creux, hein. Ça a l'air d'être une bonne ambiance.
Il y a du monde,
Merci Fabrice Abgral en direct de Paris, la Défense Arena. Lui, il est partout cette semaine. Aurel San sort un nouvel album, le rappeur que l'on va voir aussi au cinéma mercredi dans le film Yoroi, l'annonce sur les réseaux sociaux.
Je sors un nouvel album, beaucoup s'en doutaient. 17 morceaux d'Aurel San, c'est pas la BO du film, c'est vraiment un nouvel album. Il a un nom, il s'appelle La Fuite en Avant. On se tient au courant. À très bientôt.
La Fuite en Avant, nouvel album d'Aurel San, sorti prévu le 7 novembre prochain, la semaine prochaine. Précommande à partir de demain à 18h. Et l'on peut déjà vous révéler qu'il y aura dessus des featuring, des duos, avec notamment Thomas Bangalter. Oui, la moitié de Daft Punk. Également avec le rappeur SDM ou encore avec le chanteur Yamé. Au cinéma également cette semaine sort L'Étranger, le nouveau film de François Ozon. Adaptation du chef-d'œuvre d'Albert Camus. Un roman toujours très lu. 172 000 exemplaires vendus l'an dernier, des ventes bien aidées par les scolaires, L'Étranger plébiscité par les lycéens et leurs enseignants, comme l'a constaté Victor Vasseur.
Quelques jours ont suffi à Anouk, 16 ans, pour dévorer L'Étranger. L'année dernière, elle a choisi de présenter ce roman à l'oral du bac de français.
Dès la première phrase, on est complètement captivé dans le roman, puisque on a envie de savoir plus sur le personnage. Pourquoi est-ce qu'il a l'air d'avoir un détachement comme ça par rapport à la mort de sa mère? Tout le long de la lecture, on a envie d'en savoir plus sur le personnage et sa mentalité et la façon dont il réfléchit et pense.
L'Étranger reste l'un des romans les plus étudiés au lycée. Pour la première fois, Esther Rosenblum, professeure de lettres modernes à Paris, va le proposer à ses élèves de seconde.
Le roman présente des avantages pratiques, notamment le fait qu'il soit court, qu'il soit écrit dans une langue tout à fait accessible, même encore aujourd'hui aux élèves.
Ce roman est un pilier de la littérature française, affirme Sandra Guillet, enseignante à Beaumont-sur-Oise.
L'Étranger de Camus, c'est vraiment un texte du patrimoine. Ça fait vraiment partie d'une certaine idée de la littérature française qui est véhiculée depuis longtemps maintenant. C'est un texte qui intrigue par le fait qu'il s'inscrit dans une histoire commune.
Le film donnera-t-il envie de lire ou de relire L'étranger ? Les éditions Gallimard se préparent à l'engouement, comme après la sortie du Comte de Monte Cristo au cinéma. Le roman vient d'être réimprimé à 70 000 exemplaires.
Victor Vasseur. Eux ont choisi la tenue d'Adam pour sauver leur église. Des habitants d'Aubais posent tout nus sur un calendrier pour récolter les 300 à 350 000 euros nécessaires pour réparer le toit de leur édifice dans le département du Gard. Tout est parti d'une discussion entre copains. 12 ont relevé le défi. Ils se sont retrouvés ce week-end pour la dernière photo, celle où ils posent tous ensemble dans une reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Et Sylvie Duchesne a assisté au shooting en plein air.
Une table recouverte d'une nappe blanche, du pain, du vin, assis derrière 13 hommes.
Ton calbut, descends-le un peu.
Celui qui donne les consignes, c'est Patrick Frillet, photojournaliste international. Ce qu'il photographie, cette fois, c'est une reproduction de la scène de Léonard de Vinci.
Il y a une nappe pour tout protéger, entre, on verra les jambes nues en dessous et le torse nu au-dessus.
Une photo pour la bonne cause, elle va figurer dans le calendrier que 12 habitants d'Aubais ont souhaité réaliser pour trouver l'argent qui permettra de réparer le toit de l'église. Thierry Tessier-Manadier.
On ne peut plus baptiser personne, on ne peut plus marier personne, il n'y a plus d'enterrement, il n'y a plus de messe. Perso, j'ai enterré mon papa au mois de juillet, j'aurais aimé qu'il soit dans cette maison.
Damien est installateur de cuisine.
C'est venu du peintre qui, sur une discussion dans le bar, disait en rigolant « Moi, s'il faut me mettre à nu pour sauver le toit de l'église, je le fais. »
Quel est l'objet qui permet de cacher ce qu'il ne faut pas voir ?
Pour le coup, moi, c'est ma scie plongeante que je me sers tous les jours pour couper mes plans de travail sur mes postes de cuisine.
Monsieur le boulanger, il est caché par quoi ?
Par un rouleau pâtissier. Il a fallu que je ferme un peu le magasin et que les clients attendent dehors, quoi, en disant qu'il y avait quelques photos osées qu'on ne pouvait pas vous faire rentrer. Voilà.
Un calendrier à découvrir dans les jours qui viennent dans les commerces d'Aubais.
Une drôle de scène au micro ici, Garloser, de Sylvie Duchesne. France Inter, il est 13h26. Dans la prochaine demi-heure, nos chroniques, c'est la France avec Cécilia Arbona et c'est une chanson avec Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour
Amélie.
Cécilia, nous serons sur la colline de Bourg-les-Monts en Haute-Saône pour célébrer un anniversaire.
Exactement, les 70 ans de la chapelle de Ronchamp, trésor de l'art moderne en milieu rural, conçu par l'architecte Le Corbusier. Tombé sous le charme des paysages, c'est ici qu'il a inventé le concept des quatre horizons.
Et Frédéric, vous, c'est une mezzo-soprano. Qui est à votre micro aujourd'hui ?
Marine Chagnon, artiste lyrique tout-terrain, que l'on peut voir actuellement au Théâtre du Lido à Paris dans la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort. Et avec elle, c'est la voix de Pauline Croze que nous écouterons, une chanteuse qui, dit-elle, lui chuchote à l'oreille.
Ce sera juste avant 14h.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat. Je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022.
EDF. Service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie, hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat.
France Inter, partenaire de L'Étranger.
Pourquoi as-tu tué cet homme ?
Après Mon crime et Quand vient l'automne, le nouveau film de François Ozon.
Tout d'abord, regrettez-vous votre acte ?
Et pourquoi revenir vers cet endroit, précisément ?
D'après le roman d'Albert Camus.
Monsieur le Président, Meursault est innocent.
C'était un accident ?
L'étranger, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant et Swann Arlot, le 29 octobre au cinéma. Un film France Inter.
Le temps ?
La météo, avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Et bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous nous annoncez un après-midi pluvieux sur le centre-est.
Oui, une perturbation a traversé le pays. Elle vient se bloquer entre la Franche-Comté, le Sud-Bourgogne et Auvergne-Rhône-Alpes. Les nuages sont donc bien compacts, mais c'est surtout sur les contreforts du relief que les pluies seront régulières. D'ailleurs, en montagne, la limite pluie-neige va remonter vers 1800 mètres d'altitude et de grandes quantités de neige sont attendues en haute montagne, en particulier en Haute-Savoie. Dans le sillage de la perturbation, le ciel sera aussi chargé entre la Bretagne, le centre-val de Loire et les Pyrénées. Quelques averses passagères se développeront. Les éclaircies seront plus nettes entre la Normandie, le bassin parisien, le Grand Est et le Hauts-de-France. Mais c'est surtout autour de la Méditerranée que le soleil sera le plus généreux, hormis sur le Languedoc et l'ouest de la Corse. Et puis le vent d'ouest à nord-ouest est sensible sur la plupart des régions. Mais c'est autour de la Méditerranée que les rafales seront les plus fortes. 90 à 100 km par heure entre le Roussillon et la Côte d'Azur et plus de 100, 110, voire 120 en Corse, avec des risques de déferlement sur Bastia ou encore sur Porto Vecchio en fin de journée. Les températures sont, elles, en légère hausse. Elles restent tout de même un peu justes pour la saison. Seulement 11 degrés à Besançon, 12 degrés à Lyon, 13 degrés à Lille et Strasbourg, 15 à Brest, 16 pour Paris et Toulouse, jusqu'à 19 degrés à Marseille, 20 degrés à Ajaccio et 21 à Perpignan.
Merci à vous, Sébastien Léas.
France Inter. Le 13-14, Amélie Berryer.
Qui sont ceux qui nous nourrissent? Qui sont les nouveaux paysans? Dans 10 ans, la moitié des agriculteurs français auront l'âge de prendre leur retraite. Et les repreneurs ont bien changé de profil. Les enfants qui reprennent les terres et les cheptels de leurs parents représentent encore 2/3 des nouveaux exploitants. Mais ils sont quand même de moins en moins à se lancer dans le sillon de leurs aînés. Bonjour Antoine Dain.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être là. Vous faites partie de ces chercheurs de l'ESA, l'École supérieure des agricultures, à l'origine de cette grande enquête sociologique qui s'appelle AgriNovo. Vous avez envoyé des questionnaires à un peu plus de 29 000 exploitations, c'est ça ?
Ouais, dans l'ordre de 26-27 000, je crois.
Et combien ont répondu ?
On a eu à peu près 4 000 réponses.
Et à partir de ces 4 000 réponses, vous avez ébauché 5 profils. Alors, on va les lister assez rapidement, on y reviendra après. D'abord, les héritiers bien préparés, c'est ça ?
C'est ça, donc des profils de personnes qui reprennent assez tôt et qui sont vraiment préparées à reprendre l'exploitation familiale des parents.
Vous dites que c'est un pilier structurant du monde agricole.
Voilà, c'est un peu le modèle historique qui longtemps a structuré la profession, qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est à peu près 1/3 des transmissions, enfin des installations aujourd'hui. Mais donc c'est quand même en baisse sur les dernières décennies.
On a également les héritiers sans vocation.
Voilà, donc des profils aussi d'enfants d'agriculteurs, mais qui n'ont pas été préparés de la même manière et aussitôt à reprendre l'exploitation familiale, qui d'ailleurs ne reprennent pas toujours l'exploitation familiale, mais en créent une, et souvent une expérience professionnelle antérieure dans d'autres secteurs avant de revenir à l'agriculture.
Il y a également les classes populaires hors cadre. C'est 16% des sondés.
Voilà, donc un profil qu'on attendait peut-être un peu moins, mais qui en fait est assez cohérent. Donc des personnes qui sont proches des milieux ruraux et agricoles, qui ont suivi des formations agricoles, qui ont grandi à la campagne, mais qui n'ont pas de parents agriculteurs, donc qui vont devoir créer leur exploitation en fait pour pouvoir s'installer.
On va en reparler. Il y a également les reconvertis des classes moyennes. Alors eux, c'est 20% de l'échantillon. C'est des reconversions tardives, c'est ça ?
Alors plus tardives, oui, c'est des gens qui ont souvent quand même eu un, voire plusieurs métiers. Souvent dans des métiers d'employés ou de professions intermédiaires. Et puis ça correspond aussi du coup à la dernière classe, j'anticipe un peu, mais donc aussi des reconversions, plutôt depuis des emplois de cadre.
Les reconvertis des classes supérieures, c'est 8% de l'échantillon, c'est ça ?
Voilà, c'est
eux,
ça.
Ils sont issus des milieux urbains, ils ont fait des études, ils avaient des postes à responsabilité, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, plutôt urbains, des métiers de cadre ou de profession intellectuelle supérieure. C'est des personnes qui sont en couple avec des cadres, qui ont un parent cadre, donc qui sont vraiment ancrés dans les classes supérieures.
Alors, on va y revenir tout de suite, mais justement, on a au téléphone Johan Jean. Bonjour Johan Jean.
Bonjour.
Vous faites partie de cette dernière catégorie, je crois que vous vous reconnaissez dans le portrait robot ?
Exactement, oui. Quand j'ai parcouru l'étude en diagonale ce week-end, j'avais l'impression de ne plus être si unique que ça.
Vous vous êtes installé en Seine-et-Marne, vous êtes maraîcher, vous produisez quoi ?
Eh bien, je produis des légumes, une quarantaine, des carottes, des tomates, des pommes de terre. Mais c'est aussi une ferme collective où on fait de la grande culture, de la meunerie, du pain, des petits fruits. On fait beaucoup de choses.
Et on peut dire où vous travaillez avant d'être agriculteur ?
Bien sûr, j'étais dans une filiale de McKinsey qui s'appelle Orphos.
Et qu'est-ce que vous faisiez ?
Et ben, j'avais un métier de consultant, donc qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de me reconvertir, c'était pour trouver un métier qui avait du sens.
Oui, la crise Covid, je crois, elle a joué un grand rôle dans votre conversion, c'est ça ? Ah, je crois qu'on vous a perdu, on va vous rappeler juste après. Est-ce que vous êtes là, Johan Jean ? Alors, on va vous rappeler tout de suite. Antoine Dain, ce profil-là, vraiment, c'est plus des exceptions. Il le dit lui-même, Johan Jean.
Ouais, c'était un des enjeux de l'étude, c'était aussi de mesurer ça, puisque on parle beaucoup de ces profils assez surprenants de reconversion. On voit qu'effectivement, c'est plus de l'ordre de l'exception, et qu'en même temps, on est sur des proportions de l'ordre de 8%. Et une petite précision, en fait, c'est que dans ces 8%, on a un petit peu plus de la moitié qui sont, on pourrait dire, des vrais reconvertis, qui n'ont pas d'ancrage agricole, mais aussi quelques pourcentages de gens qui, en fait, ont aussi un passé des agriculteurs dans la famille, et qui, en fait, reviennent à l'agriculture après une carrière de cadre.
Pour le coup, c'est un vrai retour à la terre.
Voilà, mais
ils y ont été, leur famille a été.
Voilà, mais en étant passé par la ville et par des emplois de cadre. Donc les profils comme Yuan ici, on serait peut-être plutôt sur de l'ordre de 4%. Voilà, donc c'est pas non plus encore massif, même si c'est pas du tout anecdotique.
Yuan, il a dit le mot juste avant que la communication coupe. Il fallait qu'il donne du sens. C'est vraiment ça la motivation, donner du sens à ce qu'on fait.
Ouais, c'est une expression qui revient beaucoup dans ce type de reconversion. Nous, on a interrogé nos enquêtés sur les motivations à l'installation. Et effectivement, dans ces profils des classes supérieures, c'est quasiment les trois quarts qui évoquent la volonté de se sentir utile, d'être en accord avec leurs valeurs. Donc on voit que c'est une manière de penser le travail qui est vraiment, c'est un moteur de ces reconversions.
Yuan Jean, je crois qu'on vous a retrouvé. Vous êtes toujours là?
Oui.
Ouais, super. Vous étiez en train de nous dire que c'était une question de sens, hein, que ça s'était joué pendant la crise Covid.
Oui, exactement. Et j'avoue que je suis très content de cette reconversion, parce que ça a commencé par le sens et j'ai trouvé beaucoup d'autres choses sur le chemin. J'ai fait des rencontres formidables. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête, et je sais pourquoi je me lève tous les matins.
Vous vous êtes formé comment ?
Eh ben, j'ai fait un BPREA. C'est un peu le sésame pour tous ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole. Parce que ça permet en un temps très court d'avoir toutes les bases pour faire son métier.
Et vous y connaissiez quelque chose, Jordan, du tout au départ?
Rien du tout. Moi, j'étais incapable de faire la différence entre une graine de carotte, une graine de tomate. Si vous mettiez une binette dans les mains, je pense que je n'aurais pas été capable de savoir dans quelle boule apprendre. Mais sur ce parcours, sur ces 3 années, avec tous les gens qui m'ont accompagné, parce que ce n'est pas un chemin qui se fait tout seul, je pense à Biosol, je pense à Terre de Liens, je pense à mes formateurs, c'est ces gens-là qui, finalement, m'ont appris les bases du métier et évidemment toutes les fermes dans lesquelles je suis allé faire un stage.
Et Johan Jean, vous
c'est
avez
choisi... C'est important de bien s'entourer.
Ouais, justement, vous avez choisi de ne pas vous installer seul, je crois, de vous entourer.
Exactement, ouais. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé très, très vite. Au début, j'avais un projet qui était un peu solitaire et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus vivable quand on est plusieurs. Voilà, pour une bête question de congé. Si je suis tout seul et que je m'arrête, il n'y a plus personne pour faire tourner la ferme. Et donc, très vite, je me suis dit qu'il fallait qu'on s'installe à plusieurs. Donc aujourd'hui, on est 4 et ça permet de rendre le métier encore plus agréable.
Et vous en vivez ? C'est rentable ?
Et passer un bon moment. Et oui, en tout cas, on l'espère. Donc moi, j'en suis à la veille de mon installation. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Et en tout cas, les prévisions économiques sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, avec la production de pain qu'on a, on a déjà de quoi se verser l'équivalent de 4 MIC, sachant qu'on n'en est pas du tout à la fin du développement de l'activité.
Merci beaucoup, Yoann Jean, d'avoir été en ligne avec nous. Antoine Dain, est-ce que ces installations-là, elles sont viables ? Est-ce qu'elles sont pérennes ? Est-ce qu'on a déjà une idée de ça ?
Alors, on ne peut pas vraiment faire de prédictions, mais ce qui nous intéressait, c'était effectivement de voir sur quel type d'exploitation et à quoi ressemblait l'activité de ces différents profils. Et effectivement, on voit que chaque profil est associé quand même plutôt à certains types d'exploitation. Donc, par exemple, les reconvertis, notamment des classes supérieures, vont plus souvent s'installer en bio, plus souvent s'installer en maraîchage, comme Yuan, alors que les héritiers vont plus souvent prendre des exploitations en bovin, dans les grandes cultures céréalières. Donc, c'est déjà pas les mêmes types de production. Et surtout, c'est intéressant qu'il y ait mentionné ça parce qu'effectivement, on voit que au-delà du bio ou du type de production, une grosse ligne de différenciation, c'est le fait de travailler seul ou pas, qu'on retrouve à la fois chez des héritiers ou des reconvertis qui travaillent seuls et qui du coup sont plus en difficulté, notamment les héritiers qu'on a appelés sans vocation, ouais. Et puis les reconvertis plutôt des classes moyennes, alors que les héritiers bien préparés et les reconvertis plutôt des classes sup vont avoir tendance à recruter des salariés ou à s'associer et du coup pouvoir un peu limiter le volume de travail en répartissant en divisant le travail et puis aussi se tirer plus facilement des revenus. Et être un peu moins exposé aux difficultés économiques.
On va retourner au standard puisque Gilles nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Racontez-nous.
Ben, écoutez, moi, c'est un petit peu différent, quoique aussi un peu similaire. J'ai eu une carrière, j'ai 63 ans. J'ai eu une carrière assez complète dans la distribution, la grande distribution, que ça soit le fast-food, le hard discount, la restauration rapide, le magasin de sport, le supermarché, où j'étais directeur, etc., les convenience stores. Je suis passé 30 ans en Nouvelle-Calédonie, où j'ai appris plein de choses. J'ai jamais été trop éloigné de la terre et de l'eau. J'ai fait 4 ans de collège agricole. J'ai vécu une petite enfance sur une ferme, bien entendu, une petite ferme à l'époque. Et là, quand il s'agit de prendre, ma vraie retraite complète, eh bien, plutôt que de prendre des pantoufles et de regarder des je sais pas quoi, ben je préfère m'installer et puis essayer d'être en autonomie et de participer. Donc je m'appuie sur l'agriculture, mais je m'appuie aussi sur l'accueil touristique, puisque j'ai choisi d'acheter un domaine pas très très grand, c'est pas le problème. Je trouverai des terres à louer autour. J'ai déjà passé un partenariat verbal avec un voisin. Je suis soutenu par la commune, verbalement, en tous les cas pour le moment, et la SAFER, ça c'est très précis. Et on va avoir un gîte en mur, un gîte en accueil atypique, et avec ça, avec du grand confort, puisqu'il y a sauna, hammam.
Ah oui, c'est un vrai projet.
oui, on a trouvé le lieu, là, ouais. C'est bon, on avance, et puis voilà,
merci,
c'est
Gilles.
Quelque chose qui va fonctionner.
Merci Gilles. Antoine Dain, alors Gilles, il nous a dit qu'il avait 63 ans. Bon, j'imagine que ce n'est pas la majorité. Les reconvertis, ils sont quand même un peu plus jeunes, même s'ils sont plus âgés que les héritiers, ceux que vous nommez les héritiers.
Oui, on a plutôt des installations autour de la quarantaine, notamment parce qu'il y a des aides agricoles qui nécessitent d'avoir moins de 40 ans. Mais c'est intéressant ce qu'il a évoqué, puisque ça fait écho aussi peut-être à certains profils qui s'installent sur des très petites exploitations. Oui, on faisait l'hypothèse que peut-être il y avait des situations un peu de recherche d'autonomie, sans forcément vouloir tirer un gros revenu, mais pour être propriétaire d'une petite surface et puis pouvoir ensuite faire son activité, éventuellement diversifiant.
Et oui, diversifier son activité, parce qu'il va faire aussi de l'hôtellerie, enfin de la chambre d'hôte en tout cas.
Et ça, c'est un autre facteur important qu'on a pu repérer pour limiter la vulnérabilité économique. Ça va être avec de l'hébergement ou de la restauration, mais ça peut être aussi avec des activités de transformation, notamment sur des exploitations paysannes où on va directement transformer le lait en fromage, par exemple. Ou encore des activités de production d'énergie aussi, qui sont plutôt le fait des grosses exploitations, avec la méthanisation par exemple, mais qui permettent aussi d'avoir une autre source de revenus.
Il y a ce message de Julien, il nous écrit « Je suis fils d'agriculteur, est-ce qu'il y a des régions où les descendants d'agriculteurs sont majoritaires par rapport aux gens qui se lancent ? Est-ce qu'il y a plus de régions où il y a des néo-ruraux ?»
Alors le problème, c'est que notre échantillon ne permettait pas ensuite d'avoir vraiment quelque chose de représentatif pour chaque région. Donc on n'a pas pu vraiment vérifier ça. Mais on peut le penser parce qu'il y a aussi des régions qui sont associées davantage à certains types de production. Et comme je le disais, il y a des types de production, notamment en bovin, où on retrouve plus d'héritiers et de transmissions intrafamiliales que pour le maraîchage, par exemple.
On le disait tout à l'heure, l'une des catégories moi, qui m'a le plus étonnée, c'est les classes populaires hors cadre. C'est 16% des sondés. En fait, c'est des gens qui étaient ouvriers majoritairement, mais qui n'étaient pas du tout dans l'agriculture, qui vivaient plutôt en milieu rural quand même. Comment ils se retrouvent à devenir agriculteurs ?
Alors, s'ils étaient dans l'agriculture, souvent, c'est des personnes qui ont été longtemps salariées agricoles et qui s'installent relativement tardivement. Donc, on peut penser que c'est des personnes qui ont un projet de travailler en agriculture, ou en tout cas, qui ont toujours connu ce milieu-là, mais qui s'installent tard parce qu'il faut le temps de pouvoir accumuler suffisamment de patrimoine pour pouvoir s'installer. Je crois que c'est de l'ordre des 4/5 de cette classe qui crée leur exploitation. Donc ça suppose quand même d'avoir déjà un apport initial qui fait qu'on ne peut pas s'installer aussi tôt que les héritiers.
Et vous dites que l'agriculture, dans ce cas, c'est un moyen d'émancipation, d'échapper à la subordination salariale.
Oui, ça c'est un résultat plus général de la sociologie du travail indépendant qui montre que en fait, c'est aussi une manière de construire quelque chose pour soi, de ne plus être sous les ordres d'un patron, ce qui peut être très valorisé, notamment dans des emplois d'ouvriers, où ça permet en fait, d'avoir une petite mobilité sociale, de pouvoir se mettre à son compte.
Mais on change beaucoup l'image qu'on a de l'agriculteur, du paysan, qui souvent fait beaucoup de sacrifices pour son exploitation. Là, vous dites, vous, c'est de l'émancipation qu'il cherche.
En tout cas sur le plan économique. Après, effectivement, l'émancipation, notamment sur la question du temps de travail, elle dépend beaucoup du modèle d'exploitation. Et notamment, ce qui était frappant, c'était de voir que chez les reconvertis, donc notamment qui venaient du salariat, on retrouve des gens qui revendiquent de pas ou peu travailler le week-end, ce qui n'est pas typique dans le métier. Mais donc, quitte à attirer un revenu moindre, il y a cette volonté de quand même articuler en fait, la vie personnelle et la vie professionnelle.
En 2010, les hors-cadres familiaux, hein, donc ces repreneurs qui ne font pas partie de la famille, ils représentaient 25%, un quart des reprises. Aujourd'hui, ils sont 34% des repreneurs et ils vont représenter de plus en plus de monde.
Oui, on peut le penser. Et donc, ça soulève aussi des enjeux importants pour les institutions qui accompagnent
les installations. En termes de formation, d'enseignement agricole ?
De formation et puis de aussi aider, accompagner à créer l'exploitation, trouver les terres, puisque du coup, de fait, ça veut dire qu'on ne peut plus simplement se contenter d'hériter.
On va retourner au standard. On a Valentin au téléphone. Bonjour Valentin.
Oui, bonjour.
Je vous en prie, racontez-nous. Vous avez repris l'exploitation familiale, c'est ça ?
Oui, enfin pas tout à fait encore. Moi, je vais me réinstaller sur la ferme. Et en fait, mon frère a fait des études d'ingénieur génie des procédés. Il a longtemps travaillé du coup dans la filière lait. Et aujourd'hui, il s'est réinstallé sur la ferme en développant une activité autre, en fait, annexe. Il valorise les cultures pour faire du coup de maintenant de l'alcool. Et moi, je vais me réinstaller pour faire du lait à nouveau, en fait, parce que... en Morbihan, c'est quelque chose qui va poser question, en fait, les agriculteurs laitiers qui sont en train de disparaître. En fait.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
Ah, moi, j'ai 21 ans.
Vous êtes tout jeune ? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça ? Ou vous vous êtes posé des questions, quand même, de reprendre l'exploitation ?
Ah non. Non, je me suis posé des questions, notamment au moment du Covid.
Est-ce qu'il fait partie, notre auditeur, de ces héritiers qui n'ont sans vocation, vous diriez ça, Antoine Dain ?
Généralement, ils s'installent quand même à un âge un peu plus avancé. Mais en fait, nous, c'est une typologie. Donc après, avoir hésité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été quand même préparé ou incité à reprendre. Et de la même manière, sans vocation, ici, ça peut intervenir après des petites expériences professionnelles ailleurs qui font réaliser que, en fait, c'est ce qu'on a envie de faire.
Merci beaucoup Antoine Dain, vous êtes sociologue, je rappelle, à l'École supérieure des agricultures d'Angers-de-Guyancourt. Vous êtes co-auteur de cette étude passionnante, AgriNovo. Merci d'être venu. Oui.
Et j'aimerais juste du coup saluer le reste de l'équipe qui a fait l'étude
Bien
avec
sûr,
moi,
c'est...
donc Caroline Mazot, Bertie Tarot et Caroline Leroux.
On les salue tous, merci à vous. Une semaine dans leur vie, cette semaine au festival Banana Pchit de Dijon en Bourgogne, dédié aux arts urbains. Nous sommes au pied du mur, littéralement, avec notre reporter Victor Vasseur. Le mur de Dijon, c'est le nom donné à la façade d'un immeuble en plein cœur de la ville. Depuis 9 ans, des artistes se succèdent pour peindre une grande fresque de 8 mètres de haut, Victor.
En fait, ça motive notre imagination.
Je peux avoir votre prénom, madame ?
Martine.
Vous avez quel âge ?
Oh, vieille, 65.
Vous êtes dijonnaise ?
Oui.
En tant que dijonnaise, est-ce que vous avez le sentiment que ça habille vraiment une ville, le street art ?
Absolument. Ça enchante un quartier. Non, c'est plus qu'une coloration. Ça donne une identité supplémentaire.
Alors, effectivement, il y a une grande dominante de rouge. Ça symbolise un peu les révoltes sociales pour moi. Je trouve que c'est assez vibrant et énergique. Et le côté noir et blanc, après, pour ce qui concerne les personnages, ça met en valeur un peu la ligne. Je suis un amoureux de la bande dessinée. Alors, moi, je m'appelle Jobert. C'est mon nom d'artiste. J-O-B-E-R. Et ça fait une quinzaine d'années que je peins, maintenant. Il y a mille et une raisons de pratiquer le graffiti, mais l'adrénaline fait partie des raisons pour lesquelles je le pratique encore. L'expérience de la peinture illégale m'a beaucoup apporté dans mon travail. Sur cette idée d'être efficace, de peindre sans concession et de voir toujours la prochaine peinture finalement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est indissociable le fait que ça soit éphémère et le fait d'intervenir dans la rue, mais finalement, moi en tant que peintre, je préfère que ma peinture reste.
Justement, comment vous avez vu le street art évoluer entre guillemets avec ces villes maintenant qui vous demandent de réaliser des peintures ?
C'est quand même la preuve que les villes bougent, etc. Du coup, c'est paradoxal. Je vois ça d'un œil positif et en même temps, faut se méfier à pas que ça devienne non plus du fast-food de la peinture, quoi. Avec trop de fresques, avec disons que en tant que spectateur, moi, j'apprécie marcher dans une ville et tomber sur un mur par hasard. Et c'est ça qui va m'impressionner. C'est ça qui va me faire plaisir plus que me balader dans un quartier où tous les murs sont peints.
Elisa, vous avez 62 ans, vous venez de Strasbourg.
Oui.
Qu'est-ce que vous appréciez dans le street art ?
Moi, personnellement, je suis plus fan de portraits que de lettrage. Mais je trouve que ça apporte de la couleur. Enfin, moi, je trouve ça super chouette, tant que ça reste comme ça et que ça dénature pas les monuments. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose, voilà. Moi, ça, je suis tombée dedans il n'y a pas très longtemps, en 2019. Et depuis, je suis fan. Je suis venue à Dijon, on est déjà allé à Paris, on était à Bergerac, là je suis allée à Copenhague. Je fais toujours un mélange entre le tourisme et street art. J'essaie de trouver un juste milieu entre une ville qui apporte quelque chose touristiquement et où je sais que je trouverai des chouettes street art.
Ça veut dire quoi tomber dedans, Elisa ?
Ça veut dire qu'un jour j'ai vu une fresque de Dan. Et puis j'ai eu le coup de cœur et depuis j'essaie de trouver. Je suis un peu moins que mes amis, je suis un peu moins dans les noms d'artistes, mais je fais des efforts et voilà. C'est comme tomber, d'un coup vous aimez jouer à un jeu, du coup maintenant c'est les graphes. Quoi.
Une semaine dans leur vie au festival Banana Pshit à Dijon avec Victor Vasseur. On vous retrouve demain.
France Inter. Le 13-14.
Et à 13h50, c'est la France. Le lundi avec vous, Cécilia Arbonin, un territoire dans l'actualité. Aujourd'hui, la chapelle de Ronchamp en Haute-Saône, conçue par Le Corbusier. Notre-Dame du Haut, qui célèbre ses 70 ans, connaît un regain d'intérêt.
Oui, 55 000 visiteurs en 2024, soit 10 000 de moins qu'avant la pandémie, mais une reprise de la fréquentation qui semble s'amorcer. De plus en plus d'étudiants en architecture et en dessin, originaires d'Asie et d'Amérique du Sud, viennent découvrir ce bâtiment iconique de l'art moderne qui a poussé en pleine nature. La petite commune de Ronchamp, qui préside l'Association internationale des sites Le Corbusier, annonce que les échanges culturels et touristiques se multiplient avec le Japon et l'Argentine notamment.
Et c'est sur cette colline à 400 mètres d'altitude que Le Corbusier a eu une sorte de révélation.
Oui, l'architecte s'est d'abord fait prier pour venir sur place. Pourtant, la commission des arts sacrés lui donne carte blanche en 1950 pour rebâtir l'église bombardée par les Allemands. Le Corbusier, qui n'a pas encore réalisé d'édifice religieux, finit par se déplacer et là, il est saisi par la beauté du lieu et par son panorama sur la colline de Bourlémont. Il découvre ce qu'il va baptiser les quatre horizons. Au nord, les ballons des Vosges. À l'est, la trouée de Belfort. Au sud, les premiers sommets du Jura. Et puis à l'ouest, les plateaux de la vallée de la Saône. L'urbaniste va alors ériger quatre parois blanches avec du béton enduit de chaux et en guise de toiture, il s'inspire d'une carapace de crabe ramassée sur une plage de Long Island près de New York.
Et cette coquille de couleur brune est à la fois une attraction architecturale et une curiosité acoustique.
Exactement. En créant ce toit bombé, Le Corbusier voulait obtenir une qualité sonore idéale et c'est réussi selon Kem Lalo, qui est le programmateur des Eurocaennes de Belfort. Il a organisé deux concerts le week-end dernier dans la chapelle au programme des chants d'oiseaux et de l'opéra. Originaire de Ronchamp, Kem Lalo nous raconte ce coup de téléphone complètement inattendu. En 2017, l'agent de la chanteuse américaine Patti Smith m'appelle pour me dire que Patti est fascinée par le site et qu'elle rêve de s'y produire. Alors, comme je m'occupais du festival générique, on l'a invitée pour deux récitals devant 200 personnes. Il faisait un froid polaire, se remémore le maire de Ronchamp, Benoît Cornu. Moi aussi, cet endroit m'émeut et pourtant on n'est pas croyant dans la famille, précise-t-il. Quand j'étais gosse, on venait se promener là-haut avec les parents, ça grimpait dur à pied. J'ai toujours été intriguée par ce drôle de toit, l'élu professeur de physique-chimie, a enfin découvert les entrailles de cette coquille de noix géante. Si l'aventure vous tente, Amélie, la prochaine visite guidée est programmée le dimanche 2 novembre.
C'est à Ronchamp, en Haute-Saône. Merci Cécilia. De C'est la France à C'est une chanson. C'est une artiste lyrique que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier, la mezzo-soprane Marine Chagnon.
Elle se produit régulièrement sur les scènes d'opéra les plus prestigieuses de France. Et en ce moment, c'est au Lido, à Paris, qu'on peut la voir. Elle tient l'un des rôles principaux de la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort. Et c'est de Pauline Croze qu'elle a souhaité parler, une chanteuse qu'elle a découverte à l'âge de 15 ans.
Je suis adolescente, au lycée, une période de vie qui est justement assez compliquée. Je traverse des problèmes de santé assez importants. Je suis complètement perdue dans mon parcours parce qu'à la fois, je suis en section scientifique en vue d'être médecin. Et l'école est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et en même temps, j'ai tout ce côté artistique autour de moi. Je fais beaucoup de danse, je fais du théâtre et puis je fais de la chorale. Donc je suis dans un chœur d'enfants qui vient d'être nommé chœur d'enfants de l'Opéra de Dijon et qui me permet de découvrir l'opéra. Et je pense que comme j'ai baigné dans ce côté scène, production, être dans des grandes choses, j'ai souvent besoin d'écouter des artistes qui me parlent à l'oreille. Et moi, cette artiste, elle me touche profondément par l'émotion qu'elle transmet simplement. C'est vraiment ça.
Et avec elle, on est dans une forme d'intimité.
Absolument. C'est une intimité que je recherche, justement, moi qui suis dans des formes qui sont assez grandiloquentes, on va dire.
Mon corps me tient tête, me fait souvent l'affront de tourner les talons, de partir à l'aveuglette. Ce soir, il se prête au rythme cadencé des villes en fête sous les néons bleutés, aux nuées veloutées dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune.
Alors Frédéric, cette chanson a pour titre « Dans la chaleur des nuits de pleine lune ». Elle est sortie en 2005.
Oui, sur le premier album de Pauline Croze, dont Marine Chagnon aime particulièrement la voix. Elle aime la douceur de sa voix.
Elle apporte une chaleur, un cocon. Et il y a vraiment dans ces chansons quelque chose qu'on sent à la maison, au coin du feu, avec un thé. Et donc cette chanson, je l'ai réécoutée il y a, je sais pas, je dirais 2-3 ans. J'ai réécouté cet album, je l'ai retrouvé comme ça. Je me suis dit, c'est vrai que j'écoutais ça plus jeune. Et dans cette chanson, je me suis dit, c'est incroyable. C'est la métaphore de ce que je vis, moi. Une sorte de transformation physique entre ce qu'on a le droit d'être dans la vie et puis tout d'un coup, là dans sa chanson, la pleine lune, la fête, l'univers de la nuit, qui s'apparente pour moi à la scène, ce moment où je me transforme, où je transcende un personnage, où je mets un costume, un maquillage, une perruque et que je suis à la fois quelqu'un d'autre, mais en fait profondément moi-même. Et tout d'un coup, l'impact du texte m'a sauté aux yeux. Loin de là ma tête s'effraie de l'orage, il va de ses leçons et me tient en otage. Mais mon corps obstiné entre dans le dédale, dans la danse tribale s'abandonne et se dévoile. Tant que durent les étoiles, dans la chaleur des nuits de pleine lune, insomnie envoûtante. Dans la chaleur des nuits de pleine lune.
Quand vous écoutiez cette chanson adolescente, vous aviez à ce moment-là des problèmes de santé.
Oui.
Est-ce que Pauline Croze, elle faisait office d'amie pour vous?
Oui, on peut dire ça, d'amie, presque de confidente, parce que même si moi je ne lui parlais pas, elle vous chuchote à l'oreille quelque chose, elle vous impacte d'une façon à laquelle moi je n'ai pas accès. En tant qu'artiste, je ne peux pas faire ça pour les autres, parce que moi, ma voix, elle est forte, elle sonne, elle passe au-delà d'un orchestre, donc elle n'a pas la même intimité. Et donc Pauline Croze, elle me fait ce cadeau à chaque fois que j'allume mon enceinte et que je me dis « Oh, là j'ai besoin d'aide en fait, j'ai besoin de ressources. » Elle fait partie de ces artistes qui me font du bien.
C'est-à-dire qu'elle vous console ?
Elle me console, ouais. C'est comme prendre un café avec elle, en fait. C'est ces artistes qui nous donnent la sensation qu'ils sont avec nous dans notre salon et qui nous disent « Viens, on papote. Oh, toi aussi, tu vis ça ?» Bah ouais, parce qu'en fait, les échecs, les peurs, ben, on les vit tous. C'est ça que j'adore.
Dans la chaleur des nuits de pleine lune, Pauline Cros, c'était donc Frédéric, le choix de Marine Chagnon.
Marine Chagnon, que vous pouvez retrouver dans la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort, c'est au Théâtre du Lido à Paris.
Merci Frédéric. Allez, c'est la fin du 13-14.